Bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.
Il est 23h.
Parlons vrai.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors hier encore, j'ai comparé un peu l'amour à une addiction parce que, en effet, notre cerveau nous entraîne toujours à vouloir revivre les moments merveilleux de notre histoire d'amour, même si on sait que c'est fini. Eh bien, Laurent Carilla nous dira ce qu'il en pense dans un instant. Et puis, grâce à lui, puisqu'il est spécialiste des addictions, nous allons voir quels sont les points communs entre l'addiction et la passion. Et on ne parlera pas uniquement de la passion amoureuse parce que bien des passions peuvent nous entraîner loin, très loin, tant sur le plan financier que sur d'autres plans. Par exemple, j'ai eu la passion des chevaux, ça je crois que beaucoup d'entre vous le savent. Il faut bien reconnaître qu'elle fut terriblement chronophage et elle m'a sans doute fait rater des choses intéressantes dans ma vie. Alors Laurent Carilla, justement, va pouvoir, si vous avez une passion ou si vous êtes dans l'addiction, il va pouvoir vous aider à savoir comment vous protéger, parce que l'essentiel dans la vie, c'est évidemment pas de se refuser ses désirs, de ne pas aller dans la passion, parce que c'est aussi très excitant la passion, mais c'est de se protéger de tout ce qui peut nous mettre en danger. Alors vous avez des questions, vous avez envie de parler de votre passion ou de votre addiction, et bien vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Laurent Carilla.
Bonjour Brigitte.
Et vous aussi vous avez des passions, hein, de
moi j'appelle ça les addictions positives même. Ouais. Oui. À la musique moi.
Ouais, je sais bien. Oui, les addictions positives, c'est pas mal, parce que
j'ai rajouté
c'est
le mot positif exprès.
Ouais. Et alors, quelle est la différence entre une addiction et une addiction positive ?
Une addiction, c'est une maladie chronique, c'est que négatif. On souffre, on consomme pour pas souffrir, peu importe, des substances ou des comportements. Et moi, j'ai rajouté le mot positif derrière parce que j'ai trouvé que, finalement, il y a certains symptômes de l'addiction, sans être tous les symptômes pour faire la maladie, qu'on retrouve dans le phénomène de passion, comme vous parlez.
Alors prenons par exemple la passion pour le sexe, hein, puisque oui. Après tout c'est une...
Il y a des gens qui sont hypersexuels sans problème.
Voilà, et c'est pas une addiction, on est bien d'accord, puisque ça ne les fait pas souffrir, mais en même temps c'est très chronophage.
Oui, mais ça fait plaisir.
Ça coûte parfois très cher quand on paye un peu. Hein,
oui, mais si ça fait plaisir.
Oui, bien sûr, mais ça éloigne aussi peut-être, et c'est ça que je trouve aussi intéressant. Je trouve qu'une passion, quelle qu'elle soit, va nous éloigner un petit peu de notre entourage, va peut-être parfois même nous faire refuser des choses qui professionnellement seraient quand même plus intéressantes. Enfin, elle passe avant tout, la passion. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ?
Oui, c'est oui et non. Oui, parce que moi je prends mon exemple perso.
Allez-y.
Moi je suis fan du groupe Kiss, d'accord, et fan de musique hard rock, metal, etc. Mais du groupe Kiss, donc j'achète, tout. Je collectionne, j'achète. Tout. Ouais, là j'achète par exemple tous les pressages vinyles de tous les pays du monde. Vous voyez, bon, j'ai du temps encore pour remplir ça, mais ça m'éclate en fait. Alors c'est vrai que je dépense un peu d'argent. Ma femme peut un peu de temps en temps me dire ouais t'exagères. Après c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai que je peux aller voir, enfin maintenant ils sont à la retraite, mais je peux aller voir Kiss dans d'autres villes de France, etc. Mais c'est toujours dans un truc de kiff, quoi, de plaisir,
oui,
en disant.
Non mais j'ai pas. Voilà. Encore une fois, ouais, moi non, je non, suis mais, pas pour juger.
Non, mais parce qu'on peut se dire, c'est vrai, vous avez raison, on peut se dire, je vais aller faire ça à la place, je sais pas, d'aller dans un dîner de famille ou.
Mais forcément, je veux dire.
Mais ça joue forcément.
Pourquoi pas, hein, j'ai pas du tout envie, parce que moi je suis la première à penser
mais
qu'au
vous
contraire.
Êtes une kiffeuse, Brigitte.
Mais bien sûr, et je suis la première à penser que les passions, les collections aussi, quand on est collectionneur, ça donne du sens, des buts, etc. Donc je suis pas du tout pour nier ça. Ouais. Je suis juste pour qu'on trouve un tout petit peu quand même le juste milieu.
Ouais, c'est vrai.
Parce que parfois.
Mais après, quand c'est débordant, ça devient un peu pathologique. Ça peut être pathologique si vous commencez à dépenser tout votre argent.
Si vous n'aviez pas autant de travail à l'hôpital, ça pourrait peut-être poser un problème dans votre bilan matériel du foyer, par exemple.
Ouais, mais alors
là,
moi.
Vous gagnez bien votre vie, donc ça va.
Ouais, comme vous me connaissez, je pourrais gagner mieux ma vie. Moi, je travaille que dans le public. Mais, comme vous me connaissez, Brigitte, maintenant depuis longtemps, c'est que moi, je peux pas faire qu'un seul truc. Donc, je suis à l'hôpital, je suis à la fac parce que je suis prof. J'écris des bouquins, je me fais kiffer en fait. Tout ce que je fais,
le
c'est
dernier
éduquer.
D'ailleurs est formidable.
Merci,
justement,
Brigitte.
Puisque c'est quand même un livre qui nous enseigne à justement prendre du plaisir. Hein. C'est quand même un livre qui, c'est aux éditions Fayard, hein, je crois.
Ouais, aux éditions HarperCollins.
Pardon, excusez-moi. je crois que c'est vraiment important de bien faire prendre conscience, ouais, que c'est chouette. Et d'ailleurs, les gens qui n'ont absolument pas de passion sont souvent tristes.
Ils sont tristes, bien sûr.
On est bien d'accord.
Ils sont tristes.
Mais attention de ne pas se laisser envahir par sa passion. C'est juste...
C'est vrai. Mais d'ailleurs, si les auditeurs et les auditrices veulent m'envoyer des trucs de Kiss, moi, je les accepte volontiers, par exemple.
Très bien. Le message est passé. Le message est passé.
Non, mais il y a ce truc qui m'anime. Vous voyez, par exemple, j'ai des copains ou des copines qui vont à l'étranger.
Ouais.
Eux, ils vont à l'étranger pour des voyages professionnels ou je sais pas quoi, ou de famille et tout. Je leur dis toujours, écoute, si tu trouves un truc de Kiss, rapporte-le-moi, file-moi ton RIB, je le paye, ou on s'arrange, quoi. Et tout le monde joue le jeu, en fait. Donc, c'est-à-dire, ça alimente quand même. Mais
on
aussi.
A envie de vous faire plaisir, vous êtes,
oui,
tellement généreux,
Brigitte,
tellement sympathique, Laurent Kerila. Il n'y a pas de souci.
Mais ça alimente le truc, en fait, vous avez raison.
Et alors, je voulais revenir sur cette question de l'amour, et du côté, justement, addictif. Lorsqu'il y a une histoire d'amour qui va bien, bon, très bien, tout va bien, pas de souci. Quand une histoire d'amour commence à aller moins bien, je trouve que ce qui nous fait avoir du mal à prendre la décision de quitter, c'est qu'il y a toujours cette sorte de rappel, de mémoire des moments qui allaient bien, et l'espoir que ça revienne, et donc on reste accroché alors que malheureusement ça marche plus.
Mais ça, c'est une fonction de base de notre cerveau, en plus, c'est-à-dire que notre cerveau se rappelle toujours des bons moments, en fait. Il se rappelle, vous voyez, quand vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes tombé follement amoureuse ou amoureux de lui, vous vous rappelez de ces moments. Et vous vous rappelez un peu moins le cerveau se rappelle un peu moins de toutes les disputes qu'il peut avoir, de toutes les prises de tête, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a une interaction entre deux personnes qui est proche de cette addiction positive, en fait, après, elle peut basculer chez certains dans, moi j'appelle ça l'adamour, l'addiction amoureuse. Et l'addiction amoureuse, c'est que du négatif, en fait. C'est parce qu'on va souffrir pour tout. Tu vas me manquer, je vais être en manque comme un drogué, je vais avoir des envies de te voir. Alors dès qu'on va se voir, on va s'engueuler, vous voyez. Et tous les symptômes de l'addiction vont se répercuter sur le sentiment amoureux. Là, ça est difficile. Mais on a en mémoire, nous, ce qui nous fait du bien.
C'est ça,
toujours.
Oui, et alors parallèlement, et c'est ça qui est quand même curieux, c'est que lorsqu'on vit une peur intense, un traumatisme, eh bien, ça reste aussi très, très marqué. Pourtant, c'est un truc désagréable.
Ça reste marqué, mais ça peut rester aussi très inconscient. Alors que.
Quand c'est dans l'enfance.
Ouais, c'est ça, dans l'enfance, dans l'adolescence. Mais vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a été victime d'un attentat, il peut faire un stress post-traumatique. Donc son cerveau a enregistré cet événement horrible, etc. Et ça peut aller très, très vite, en fait. Le cerveau déconnecte sur certaines choses, en fait. Donc il y a ces deux éléments-là.
Oui, vous voulez dire qu'il va avoir tendance à remettre dans l'inconscient le moment traumatique.
Mais ça va être dur à gérer dans la vie réelle.
Parce que c'est trop violent, justement, trop difficile.
Exactement.
Et comme le psychisme, quand même, essaye de nous sauver, tout ce qui est trop difficile, on le met dans le tiroir.
On met dans le tiroir et on essaye de compenser. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir? On ne sait pas ce qui se passe. Et certains peuvent commencer à prendre des drogues, l'alcool.
C'est là où on peut tomber dans l'addiction
déprimé, être anxieux, plus dormir, etc.
Parce que justement, on ne sait pas trop pourquoi on n'est pas bien.
Exactement.
Donc pour aller mieux, on boit une bière,
une
coupe de champagne, et puis deux, et puis trois.
C'est ces racines-là qu'il faut arroser, on ne sait pas ce qui se passe, quoi.
Donc, en fait, à vous écouter, Laurent Kerila, j'ai l'impression que lorsqu'on a une sensation comme ça de mal-être assez diffus, ça vaut peut-être le coup d'aller chercher l'origine de ce
je crois que
malaise,
c'est bien.
Mais c'est pas facile.
Mais il faut apprendre à se connaître aussi, quand même. C'est quand ça devient, on va dire, difficilement gérable, où on fait un peu n'importe quoi, ça peut être pas forcément n'importe quoi de manière exagérée, il faut se dire, bon, peut-être je vais aller voir ce qui se passe, peut-être je vais aller en parler avec quelqu'un. Et je recommande ça, même pour des gens qui vont d'allure bien, on peut aller voir quelqu'un et aller explorer des petits trucs.
Et puis c'est parfois très, 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 ça va très vite, bien sûr. Et bien justement, vous pouvez nous appeler au 0826-300-300, soyez addict à Laurent Kerila
et à Brigitte.
Et à moi, bien sûr. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite.
Sud Radio Arcachon.
100.4.
Sud Radio.
Ton palais ces trois bouts de tôle, de planches de bois.
Brigitte Lahaye, Sud Radio.
La passion, les addictions, on en parle avec Laurent Carilla, psychiatre, oui, qui est avec nous. Vous êtes un des premiers à avoir beaucoup travaillé sur les addictions. Et puis, vous êtes aussi quelqu'un qui nous invite à en avoir, des addictions, des passions. Qui nous invite surtout à profiter de la vie, puisque votre dernier livre, Docteur Addict ou pas, aux éditions HarperCollins, vous nous montrez bien.
Merci, Brigitte.
On est presque obligé, si on veut être heureux, d'avoir quand même un peu,
stimuler, ouais,
un peu de choses agréables.
Bien sûr.
Sinon,
je vous adore, Brigitte.
Et c'est Eva qui commence. Bonjour Eva.
Oui, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Eva. Brigitte. Merci de me recevoir.
Mais je vous en prie. Merci à vous Eva d'être avec nous.
Merci. En fait, moi je voulais vous parler d'une addiction au travail.
Oui, ben oui, vous avez raison, ça existe.
Addiction au travail qui peut être une passion, mais qui peut devenir une véritable addiction.
Alors, tout va dépendre, parce que pour moi, il y a deux sortes d'addiction au travail. Il y a l'addiction parce qu'on adore son travail et que finalement, c'est pas un travail, c'est presque un art, enfin, etc. Et puis, il y a l'addiction au travail qui permet de ne pas être trop souvent au foyer. Je sais pas si...
C'est exactement ça.
Mais vous avez raison, j'en parle dans le bouquin d'ailleurs. Il y a, ce que vous dites là, c'est il y a ce qu'on appelle la passion pour son travail. Ça existe, c'est une phase. Et après, cette passion pour le travail, elle peut être associée à ce qu'on appelle l'hyper-travail. Donc on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est un peu chronophage. Mais quand on bascule dans l'addiction, on est comme un addict à des drogues. Mm-hmm. C'est-à-dire que le travail ne fait même plus plaisir.
C'est ça. Et quand c'est une fuite pour pas rester avec son conjoint, c'est un petit peu.
Ça
parle de quelque chose.
La passion du travail devient pathologique en fait quand il y a ça. Mmh. Si on n'a pas tous les symptômes d'addiction.
Alors dites-nous Eva, où est-ce que vous en êtes vous?
C'était le passé. c'est plus ça maintenant. Donc ça, c'était plutôt pour par rapport au fait de rester longtemps au travail pour ne pas être à l'intérieur du foyer.
D'accord. Et ça, c'était donc une relation précédente.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça peut être souvent le cas des hommes quand ils viennent d'avoir un jeune bébé. et du coup, ne pas être trop présent à certains moments, et ben, en tout cas pour une certaine génération, et qui faisait que ça leur permettait de, en rentrant un peu plus tard, de ne pas avoir effectivement un certain nombre de tâches à faire dans lesquelles ils n'étaient pas forcément à l'aise, quoi.
Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez alors sur votre addiction au travail ?
Sur cette addiction-là, ce n'était pas la mienne, hein, c'était celle
de votre conjoint,
d'accord.
Oui, tout à fait. Et du coup, ça présageait quelque chose de pas forcément positif par la suite, forcément. Parce que c'était forcément, c'était pas, je dirais, il y avait quelque chose, une sorte de fuite, effectivement.
Oui, oui. Et vous en avez souffert ? Vous en êtes rendu compte assez vite ou déjà ?
J'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris cet épuisement, en fait. Alors, il y avait deux choses. Il y avait l'épuisement du fait d'un jeune bébé qui arrive, d'assurer financièrement et socialement, professionnellement. Donc, cette pression sociale et familiale qui était importante. Et puis ce manque à l'intérieur du foyer, puisque la présence était importante pour pouvoir soulager par rapport à des actions qui peuvent être un peu lourdes à gérer tout seul, quoi.
Oui, et puis on peut se sentir un peu abandonné parce que l'autre n'est pas là. On peut avoir l'impression que le travail est plus important pour lui que pour nous, donc ça fait du tiers qui est pas facile à accepter. Enfin, ça a des répercussions sur plusieurs plans. Hein.
Complètement. Mais c'était peut-être pas forcément une addiction au sens strict du terme, c'était peut-être justement comme vous dites une fuite liée à l'arrivée d'un bébé qui peut un peu perturber toutes les relations, etc., non ?
C'est un peu, je dirais, après ça peut être aussi une découverte d'un principe de Peter, c'est-à-dire que c'est Peter Pan d'ailleurs plutôt, c'est de ne pas assumer complètement et de ne pas se rendre compte forcément de toutes les responsabilités et en même temps... C'est une responsabilité parce que il faut assurer d'un point de vue financier et d'un point de vue présence, enfin, d'un point de vue statut social aussi. Voilà.
Ouais, complètement.
Mais vous avez pu en parler ou en fait non, c'est resté.
Ça a été, mais après ça c'est compliqué et puis après il y a eu effectivement. Du fait que ça se complique dans le nid, on va chercher des ressources ailleurs et c'est souvent sur le lieu du travail. Et du coup, il y a des choses qui se passent sur le lieu du travail.
Mais alors là,
on a encore moins envie de revenir.
Oui, il a pris une maîtresse, c'est ça.
Ouais, c'est ouais, ça.
Ouais.
Et ouais. Du coup, les choses se sont forcément.
Oui, de ce qu'on vous dit, on a vraiment en effet l'impression que c'est un homme qui n'a pas assumé sa paternité d'une manière très inconsciente.
Oui, c'est plus ça que de l'addiction au travail,
et donc ça a dévié sur plus de travail, ouais. et puis ensuite évidemment une autre femme qui n'était pas la mère de ses enfants.
Non, mais je pense aussi qu'il y avait beaucoup d'addiction en amont de ça, de ce comportement-là. C'est-à-dire que ce comportement-là s'est manifesté sur cette relation-là, assez avec cette histoire-là, mais au préalable, il y avait du sport à outrance, il y avait du travail à outrance, tout était à outrance en fait. Il y avait toujours des choses qui étaient faites d'une manière exponentielle.
C'est intéressant ce que vous dites, Eva, par rapport au sujet du jour. Laurent Carilla, quelqu'un qui ne sait pas, entre guillemets, s'ennuyer, c'est-à-dire rester tranquille, c'est déjà un signe qu'il y a besoin de remplir ce vide.
Bien sûr. Et les comportements excessifs comme ça, c'est de remplir ce vide, qui est anxiogène, en fait, ça, qui est source d'angoisse. Et il faut être occupé, il faut avoir la tête occupée, tout être occupé de partout, quoi. Et c'est vrai que pour certains qui sont un peu vulnérables, pour le coup, ils peuvent basculer dans une vraie addiction, maladie.
Et est-ce que vous êtes d'accord ? On dit qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus dans ce comportement-là, avoir du mal à simplement...
Oui, parce que la société est très speed, on demande aux gens d'être très productifs, de faire tout très vite... de dépenser très vite, de, dans tous les sens du terme. Et en fait, c'est vrai que et ça a un impact sur nos enfants, les ados, etc. C'est, on leur dit, mais ennuyez-vous. Ils s'ennuient plus, les ados. Hein.
Il y a toujours faire. La notion de faire. Il faut être dans le faire.
Et ils vont sur, par exemple, sur TikTok, quoi. Ils s'ennuient pas. Quoi.
Et ils zappent, etc.
Exactement.
Etc. Oui. Là, il faut réapprendre la patience,
La béatitude.
Et la vivre, profiter de l'instant présent, surtout.
Ouais, c'est ça. Et la béatitude qu'un enfant, justement, un jeune bébé, vous apprend, parce que, il faut que le rythme soit beaucoup plus calme.
C'est sûr que si vous secouez l'enfant pour le changer, lui donner son biberon et hop, allez, dépêche-toi, aval. ça risque de le perturber pas mal, oui. Mais en même temps, c'est terrible aussi parce que ne plus savoir la patience, l'ennui, etc. Ça rend la concentration plus compliquée.
Enfin, c'est l'attention même.
Oui, absolument.
Ça entraîne des problèmes respiratoires aussi parce que, comme par hasard, cette personne respire mal. Et maintenant, à même pas 50 ans, un respirateur pour respirer. Donc ça entraîne plein de choses aussi dans sa manière d'être au quotidien aussi.
Mais il fumait probablement, non ?
Pas forcément.
Non.
Mais du stress, non. Peut-être ? Beaucoup de stress ?
Non, énormément. Énormément de stress. Ouais. Énormément de stress. Les métiers, tout très stressant, ouais.
Le stress, hein, ça finit par contracter les poumons.
Ouais.
C'est pas
attention au stress.
Ouais. Il faut qu'il apprenne à se relaxer et prendre le temps de vivre.
Prendre le temps, ouais.
Parce que si on prend pas le temps de vivre, on meurt très vite, hein.
On a le temps qu'on a et le temps qu'on prend. Donc, c'est clair. Que...
Donc après, on passe à un autre relais, en fait, je dirais.
Eh ben, merci, Eva.
Merci, Eva.
En tout cas, parce que vous montrez bien que, il y a énormément de lieux, d'endroits, de professions, de passions, d'activités qui sont signes, évidemment, d'un mal-être. Mais au fond, est-ce que c'est pas inhérent à la nature humaine,
hein ? Il y en a forcément. On vit pas à Euro Disney, donc. Forcément, il y a des moments où c'est top et des moments où c'est un peu moins bien. Quoi.
Oui, il faut être aussi indulgent avec soi-même.
Exactement,
évidemment.
Il faut se connaître.
Se connaître, mais ne pas se juger et se critiquer. Ouais. Merci Eva, on fait une petite pause et c'est Valérie qu'on va retrouver dans un instant.
Sud Radio Valence.
95.1.
Sud Radio.
En ville, le grain se lève, vent de nerfs agité, que se ternissent les rêves dans ma réalité.
Je veux des balades sur la grève, oh, un peu d'humanité, moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, moins de béton, plus de rêve dans ma réalité. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés. Sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés. Sur le rivage, oubliez ton lointain visage.
Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3. Un bonheur simple, mais à mon goût, c'est un peu vrai, mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume, et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd.
Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Oh.
Que neige alors, une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan, brise talus pour sécher le sel de mes larmes.
Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublie ton lointain visage. Que neige, une planche de salut.
salut, un du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublie ton lointain visage.
Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Laurent Carilla, psychiatre, nous évoquons l'addiction, la passion. Oui, et on vous invite évidemment à réagir, quel que soit le choix. Est-ce qu'on choisit d'ailleurs? Ça, c'est pas sûr. Bonjour Valérie.
Bonjour Brigitte, bonjour Laurent.
Bonjour Valérie.
Et vous allez nous parler de passion, vous?
Oui, c'est ça. Moi, j'ai vécu une passion dévastatrice il y a 9 ans.
Oui.
Ça a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi de passion, tous les jours, pareil, sur la même intensité, sur tout, dans tous les domaines.
Pour un homme, donc.
Oui, bien sûr, oui, pour un homme. Et ça s'est arrêté brutalement parce que peut-être que j'étais épuisée. Et que lui, partait, revenait. Et là, à bout de force, quand il est revenu, j'ai pas accepté qu'il revienne. Cependant, pendant ces 2 ans, il y a eu ces allers et retours tout le temps. Ça a duré 1 mois, ça a duré 2 mois, des fois la séparation, mais on revenait tout le temps avec la même intensité. Et 2 ans et demi après, il est revenu. Et c'était pareil, en fait. J'ai ressenti en moi cette même intensité, du coup, je m'interroge parce que c'est vrai que j'ai peut-être un peu confondu l'amour avec la passion, mais on est dans le même schéma qu'une addiction en fait. Et le sevrage, il a été extrêmement dur. Et je sais même pas si c'est, je pense qu'aujourd'hui ça va, mais c'est extrêmement difficile. Et toutes ces choses qu'on dit sur les addictions, que voilà, il faut se sevrer, qu'en 28 jours, 21 jours, etc., il y a un délai, que ça va aller mieux après, qu'au bout de 3 mois, tu verras, tu vas y arriver. Mais non, en fait, c'est faux, en fait. Le corps, il réclame, en fait. Il y a un truc à l'intérieur qui est plus fort que la raison, en fait.
Il n'y a pas de modèle pour l'amour, en fait. C'est pas le même modèle que pour les drogues. Les drogues, ça peut être... Mais c'est vrai que ça peut être très très long. Et puis il y a ça remue plein de choses à l'intérieur aussi. Et puis ça dépend des personnalités des uns et des autres, du tempérament, de l'histoire personnelle, etc. Et puis l'addiction amoureuse, ça peut être redoutable.
Mais dans ce que j'entends comme ça, Valérie, j'ai l'impression qu'il y avait surtout une sexualité qui était top de top, non?
Ah ben complètement.
Voilà, parce que c'est ça qui fait que c'est très très... Parce que moi je trouve que la sexualité, quand elle est comme ça aussi vibrante, intense, c'est pas loin d'une drogue. Quand on est
c'est une drogue.
Vous êtes d'accord? Sur le plan hormonal, de toute façon, ça a été prouvé.
Même sur le plan cérébral, c'est une drogue.
Donc c'était ça le problème. C'était pas la personne en elle-même. C'était ces moments intenses de charnels que vous aviez avec lui, et quand vous n'en aviez plus, ça vous manquait.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Et effectivement, ça fait le parallèle avec ce que je vis peut-être actuellement dans une relation qui est assez discontinue. Donc on se voit pas, mais quand on se voit, c'est toujours sur le même niveau d'intensité, c'est les corps qui s'appellent, en fait. Alors, je sais pas si c'est de la passion, mais en tout cas, il y a un magnétisme extrêmement fort que lui et moi, on n'a pas avec les autres. Et c'est extrêmement troublant parce que je crois qu'à un moment donné, on s'appelle, ouais. On s'appelle cérébralement, et puis physiquement, et quand on se croise, quand on s'est pas vu depuis 2 mois, on finit la nuit ensemble, quoi.
Vous êtes des neurones miroirs, quoi.
Peut-être. Mmh. Et il y a ce bien-être, en fait, aussi. Il n'y a pas que l'aspect sexuel. Il y a cette espèce de bien-être, de comme si on rentrait à la maison, en fait. Vous voyez,
il y a cette plénitude après le moment intense de sexualité. Il y a cette plénitude. Et c'est là où on pourrait quand même dire que c'est différent d'une drogue, parce que ça apporte quand même, ça apporte à nouveau de l'énergie, sa ressource.
C'est plus du plus que du moins.
C'est quand même c'est excellent pour la santé, sur le plan hormonal, neuronal. Donc c'est quand même pas une drogue, mais
ça se comporte comme.
Il y a ce sentiment de manque si c'est trop longtemps absent.
Oui, mais c'est pas un manque, comment dire, enfin, la personne à moi, elle me manque pas, en fait. La personne avec qui j'ai cette relation-là, actuellement, elle ne me manque pas. Alors que, il y a 10 ans, c'était invivable. C'était
peut-être que vous êtes devenue plus sage.
Plus mature.
Valérie.
Peut-être que c'est ça, peut-être. Mais en attendant, aujourd'hui, pour se défaire de ce type de relation, on fait comment? Parce que c'est pas une drogue, ok, parce que c'est pas mauvais. Et effectivement, j'avoue, maintenant que vous le dites, quand on se voit, après, il y a un espèce de regain d'énergie, de plein de belles choses, en fait. Enfin, moi, je me remplis, en fait, de mon énergie.
Et en plus, vous avez pas l'air d'en souffrir, donc je vois pas pourquoi vous voudriez arrêter.
Moi ça dérange pas, mais c'est plutôt lui que ça dérange, puisque je suis beaucoup plus âgée. Je suis plus âgée que lui et ça c'est pas compatible avec une relation.
Je suis pas sûre que ça le dérange. Ça le dérange.
C'est
son problème. Si vous ça vous dérange pas.
Moi ça me dérange pas du tout. La situation elle me convient, parce que moi je suis assez indépendante et assez libre, et du coup moi ça va. Mais c'est vrai que il y a des fois j'aimerais bien que ça aille un peu plus loin que ces moments, que ces évasions, que ces parenthèses, en fait. Hein.
Ça vous fait du bien.
Et c'est là où peut-être la différence d'âge fait qu'il a pas envie de s'engager plus. Parce qu'il veut peut-être avoir des enfants, ou enfin, j'en sais rien.
Il n'y a pas une différence d'âge à ce point-là. Il n'y a que 8 ans d'écart. Hein. Moi, j'ai 53 ans. Donc, il est jeune quand même.
45 ans, donc. Hein.
Voilà, vous êtes jeunes tous les deux.
Je vois pas, le problème. Alors, à mon avis, parce que je commence un petit peu à connaître les garçons, Valérie. À mon avis, c'est la bonne excuse qu'ils vous donnent pour pas s'engager. Hein.
Oui, mais après, peu importe, parce que moi, j'ai envie vraiment de m'engager.
Compris que vous étiez pas. Ça doit lui faire peur, cette dépendance doit lui faire peur, parce qu'il y a une dépendance quand c'est intense comme ça.
Oui, mais du coup, c'est ça, en fait, mais c'est pas reconnu comme tel, en fait.
C'est-à-dire
à chaque fois que qu'on se retrouve comme ça, parce que il rencontre d'autres gens et puis il essaye avec d'autres personnes et puis moi aussi, hein, mais au final ça, au bout de 2-3 mois, ça capote et puis on se retrouve comme si c'était hier, et on se dit tous les deux mais on va jamais s'en sortir, en fait.
Oui, parce que vous êtes compatibles parfaitement. Vous êtes histocompatibles, donc c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs.
Mais je comprends pas pourquoi vous voulez pas vous mettre ensemble, enfin.
Dites-lui qu'il nous appelle, on va lui parler.
C'est lui qui devrait vous appeler.
Non, dites-lui qu'il nous appelle, on lui parle tout de suite.
Voilà,
on va vous régler votre histoire, parce que là, voilà, on sait, vous êtes des neurones miroirs, vous êtes compatibles.
Par contre, c'est complètement ça. Hein. On est vraiment, il y a cette dimension-là en plus.
C'est pas que sexuel.
C'est pas que sexuel, non. Il y a des choses qu'on vit en parallèle et voilà.
Oui, mais en plus vous vous disputez pas, il y a pas de conflit.
Dites-lui de nous appeler. Allez, Brigitte, vous êtes d'accord?
Absolument, absolument. Vous lui donnez notre numéro. On va lui parler vrai, Valérie.
Comme le dit Sud Radio.
Bon, mais en tout cas, merci de ce témoignage, parce que oui, il y a quelque chose qui est quand même.
C'est ce côté, comme on disait tout à l'heure, Brigitte, la passion, la limite. Et un peu de l'addiction et des symptômes qui se mélangent, quoi.
Oui,
mais c'est vrai.
Mais vous n'avez pas l'air d'être addict, Valérie.
Voilà. Je sais pas que je suis si quand même un peu.
Êtes follement passionnée, et ça c'est beau.
Pour tout. Je viens tentativement, j'avoue. Mais je prends le temps de vivre. J'ai bien écouté ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais je prends le temps de vivre.
C'est cadeau.
Et j'apprécie chaque seconde, seconde.
Mais moi, j'ai l'impression que vous avez un très bon élan vital. Et c'est formidable. Ouais. Surtout, gardez-le. Enfin, à mon avis, il n'y a pas de risque. Hein. Merci de ce témoignage, Valérie. Merci beaucoup. Alors, Sophie est avec nous maintenant. Elle va répondre à 3 questions intimes. Bonjour, Sophie.
Bonjour, Sophie.
Bonjour.
Alors, première question, quelle serait votre addiction, en tout cas, quel serait votre petit péché mignon?
Moi, c'est un peu la cigarette, quand même.
Ah, ça, c'est pas terrible, parce que ça, il n'y a aucun avantage, il n'y a que des inconvénients.
Je vapote et je garde la cigarette.
C'est bien de vapoter, essayez de vapoter à fond même.
Oui, je vapote, mais je garde une, 2-3 cigarettes dans la journée, voilà, bon. Pour le plaisir. Ouais.
Pour le plaisir, comme disait Herbert Léonard.
Exactement.
Oh, 2-3 cigarettes par jour, ça va encore. On va pas.
Hein. Oui, mais bon.
Mais si on peut les enlever, c'est encore mieux.
Bah oui, ça.
Avec encore plus de nicotine dans votre vape, c'est encore mieux, Sophie.
D'accord. D'accord.
Okay. Écoutez-moi, enfin, Sophie.
Bon, alors, je culpabilise moins. Alors,
non, il ne faut pas culpabiliser. Vous augmentez la nicotine de votre vape. Et, okay. Et vous verrez, ça sera encore mieux pour vous.
D'accord.
Bon, super. D'accord.
Bon. Et deuxième question. Quelle note vous donnez aujourd'hui à votre libido, aujourd'hui, là?
Oh là 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 là.
Ça, c'est pas une note, hein, c'est un commentaire.
Non, c'est... 2. Non,
oh, bah alors.
2 sur 10 ou 2 sur 20?
Bon, bah, essayez la pipe, hein, peut-être que ça marchera mieux.
C'est encore plus de moins de risques encore.
Non, mais au moins.
Non, c'est
bon.
Catastrophique.
2 sur 10, c'est pas terrible, hein, c'est vrai. C'est
non,
pas,
non.
C'est, ouais,
non.
Ouais, bon, bon. Bah, il faut changer, hein, au lieu de 2-3 cigarettes par jour, 2-3 hommes par jour, et puis ça devrait faire remonter votre libido et descendre.
Bon, j'espère bien que ça va changer. Oui.
Bah, nous aussi. Hein, là, attendez, il fait encore un peu froid, là, c'est le week-end de Pâques, c'est normal. Mais après, le soleil va enfin être là. Vous allez pouvoir mettre vos petites jupes, et puis vous allez voir, les hommes vont se retourner sur vous et hop, c'est reparti.
J'attends le soleil avec impatience.
On est nombreux, je crois. Hein.
Oui.
Et bon, dernière question. Est-ce que vous pourriez me raconter votre plus beau souvenir érotique? Ça va faire remonter votre libido.
Érotique.
Ou pornographique, hein, ou charnel, enfin.
Ah, voilà, là, le plus beau, alors. C'est
ce qui vous vient à l'esprit.
Celui qui me vient à l'esprit, c'est un orgasme avec les seins. Hein. Ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie.
C'était on vous caressait les seins, donc vous caressez les seins et vous avez eu un orgasme.
Une fois. Et le plus beau, c'est... je me rappelle de celui-là.
Ouais. Mais c'est marrant parce que ça arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Et c'est bien que vous puissiez le dire à l'antenne parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive.
C'est magique.
Mais il n'y a que les femmes qui peuvent arriver à jouir avec des parties de leur corps tout à fait inattendues. Hein.
C'est super, vous avez trop de la chance.
C'est vrai, je reconnais, hein, je suis privilégiée de ce côté-là.
Bon, bah, ça remonte un peu votre libido, ça quand même.
Sophie. Oui, je me permets de retrouver tout ça.
Hein?
C'est sûr.
Je vous laisse poser une question à Laurent Carilla, il vous écoute, allez-y.
Alors, Laurent Carilla, que je connais par le biais de la télévision. Et donc, j'aimerais savoir quelle est votre addiction?
Le heavy metal. La musique.
Okay. Ah oui, d'accord. D'accord, ben, c'était ma question. C'était pour savoir si vous avez d'autres addictions?
Le travail, un peu. Moi, je ne suis pas trop fan des...
Mais vous n'êtes pas trop dans l'addiction. Enfin,
moi,
c'est
non.
Plus des passions que des addictions, en fait.
Je ne suis pas trop consommateur de substances... même dans les comportements, non. Moi, je fonctionne à la passion, exactement. C'est ça qui m'anime, en fait.
Mais d'ailleurs, moi j'ai remarqué, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Laurent Carilla, hein, mais j'ai remarqué que lorsqu'on a plusieurs passions, on est rarement dans une addiction réellement.
Non, parce qu'on est. On est
suffisamment habité, si je puis dire.
Habité, complètement.
Oui.
Moi, je vous rejoins là-dessus. Je suis passionnée aussi, moins qu'addict.
Par quoi? Alors, par quoi vous êtes passionnée, vous, Sophie?
Oh, par plein de choses. Du bricolage, du jardinage, de la nature, de la rando. Je suis passionnée par une fleur, partout.
Vous aimez la vie.
C'est cool.
J'aime la vie, exactement. J'adore la vie.
Bah, alors, votre libido va pas si mal, hein, parce que vous savez, la libido, c'est pas uniquement le sexe. Hein.
Bah oui.
La libido, c'est la puissance de vie, c'est Eros au sens, au sens large. Donc ça va, on va
d'accord.
Vous... Allez, on vous met 5.
Ah bon, ok, oui. Non, j'adore alors, la vie, bien sûr.
Bon, alors, quand vous êtes dans la nature, vous ne fumez pas et puis c'est tout. Hein.
Ouais.
Ouais, exactement. Non, je ne fume pas. Quand je fais mon sport, mes randos, je ne fume pas.
Excellent. Mm-hmm. Et vapoter à fond.
Bon. D'accord, ok.
Merci Sophie.
Merci beaucoup. Merci
on
à
fait
vous.
Une petite pause et on va retrouver Bertrand qui est peut-être addict, aux sous-vêtements féminins. On verra ça dans un instant.
Sud Radio Tarbes.
102.
Sud Radio.
Mmh.
assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre.
Regarde-toi à l'autre pôle, ferme les yeux sur ce qui nous ronge. On a changé à la longue.
On a
Je vis dans une maison de verre, à moitié remplie de ton eau, sans s'arrêter, le niveau monte. Je suis le fantôme qui s'égare, je suis l'étranger à ton cœur, seulement regarde comme on est seul.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes avec Laurent Carilla, oui. Psychiatre aujourd'hui, que vous pouvez découvrir dans ce très joli livre dont vous nous aviez parlé la dernière fois, Docteur Addict ou Pas, c'est aux éditions Harper Collins. Et c'est vraiment, j'ai envie de le dire, oui, une bible hein, pour bien comprendre qu'il faut se faire plaisir et puis à partir de quand on est sur exactement. La pente descendante.
Hein. C'est pas un livre sur l'addiction, mais c'est un livre sur exactement ce que vous dites, c'est se faire plaisir et comment ça... Dans l'excès, il faut faire attention et ça peut basculer et dans l'addiction.
Voilà. Mais c'est pas du tout un livre négatif. Au contraire, je trouve que c'est un livre qui nous ouvre merci, quand Brigitte. Même bien des portes sur tous les plaisirs de la vie. Bonjour Bertrand.
Oui, bonjour Brigitte.
Bonjour Bertrand.
Merci d'être avec nous Bertrand. Vous êtes addict aux sous-vêtements féminins, c'est-à-dire vous volez les sous-vêtements féminins des femmes dans les vestiaires ?
Non, pas du tout, je ne suis pas à ce point-là. Non, mais je développe des achats presque compulsifs, en fait.
Oui, mais pour les offrir ou pour les garder pour vous ?
Eh bien, un peu les deux, oui. Un peu les deux pour ma compagne.
Oui.
Pour ma compagne, mais aussi pour moi-même.
C'est-à-dire vous les mettez, vous ?
Ouais, quand je suis seul, bien sûr.
Mmh. Et ça vous dérange, ça vous fait souffrir, ça vous choque, qu'est-ce que vous diriez, ou au contraire, ça vous excite ?
Disons que ma compagne, c'est pour moi c'est un jardin secret parce qu'elle n'est pas au courant. Hein.
Mmh.
On voit, et puis ça me coûte cher, quoi.
D'accord, oui. Mais sinon, ça ne vous gêne pas quand vous mettez ces sous-vêtements, ça vous excite et vous l'assumez bien.
Au contraire. Le problème, c'est que maintenant, je ne peux plus avoir de relation avec ma compagne si elle n'est pas avec avec des sous-vêtements hyper sexy. Et moi, c'est pareil, le sol, si...
Pour vous masturber, vous avez besoin d'avoir des sous-vêtements, c'est ça?
C'est ça, c'est ça.
Alors, on n'est pas dans l'addiction. On est plutôt dans...
La paraphilie.
Ouais, de la paraphilie. Qui n'est pas une addiction, mais qui peut s'apparenter justement, pas du fait on répète, etc. Mais quand ça devient un mode d'excitation quasi exclusif, on est dans ce qu'on appelle la paraphilie, et là il y a un peu de fétichisme, il y a un peu de transvestisme, etc. Donc c'est un autre process que l'addiction. Et ça, enfin bon, si ça ne fait pas souffrir, hein, en tout cas, moi je recommande quand même un soutien psychologique. Pour aller explorer pourquoi voilà il y a ça
d'où ça vient
et... Oui, ça fait pas très longtemps
ouais.
En plus j'ai 58 ans, ça fait je sais pas, ça fait 2-3 ans
et ça va
crescendo quoi.
Ouais,
mais c'est pour ça que vous vous inquiétez. Est-ce que vous avez commencé après la perte de quelqu'un?
Non, pas spécialement.
Ou quelque chose de traumatisant?
Pas spécialement. J'ai rencontré ma nouvelle compagne, ça fait 5 ans maintenant.
Oui, donc vous avez commencé après, parce que oui, pardon, allez-y, je vous en prie.
Oui, au départ, ça tout allait bien. Enfin, il y a pas de souci. Et maintenant, quand on fait l'amour, j'ai besoin qu'elle soit.
Oui, mais ça, je on connaît. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas rare, hein, Bertrand. Mais en effet, c'est problématique parce que ça passera pas tout seul. Et là, on voit bien que vous commencez à vous rendre compte qu'il y a un problème. Et vous avez pas idée de ce qui a déclenché ce goût?
Mais je n'en ai pas la moindre idée, non.
En tout cas, il faudra en parler. Je pense vraiment, enfin, si ça vous inquiète, en tout cas, hein, et si ça devient envahissant, il faudra en parler avec quelqu'un pour essayer d'aller explorer ça. Et peut-être, enfin, même des traumatismes enfouis, on ne sait pas, hein, des trucs qui remontent à il y a très longtemps, mais il y a des techniques comme l'EMDR. L'EMDR, c'est des techniques de sensibilisation.
Ou l'hypnose, ouais. Ouais. Mais un sexothérapeute, peut-être, mais il ne faut pas n'importe qui. Hein, il ne faut pas quelqu'un. Il faut surtout pas que vous rencontriez quelqu'un qui se permette de vous juger, parce qu'il n'y a pas, il y a pas à vous juger.
Bah oui, bien sûr.
Il y a certainement un souvenir qui est complètement oublié, hein, bien sûr, de votre enfance avec...
des sous-vêtements féminins.
Exactement. Alors avant, on aurait dit une nourrice. Ouais. Mais vous voyez, il y a eu une excitation quand vous étiez petit qui a été totalement oubliée et qui s'est réveillée à un moment donné. Voilà, à un moment donné où il y avait peut-être une tristesse. C'est pour ça que je pensais à un deuil. Et ça s'est réveillé. Et puis maintenant, vous êtes totalement accro parce que ça vous permet, si je puis dire, d'assouvir. Oui, d'assouvir ce souvenir qui est complètement enfoui, dont vous ne vous souvenez pas. Alors, ce n'est pas forcément nécessaire de vous souvenir du moment quand vous étiez enfant qui a provoqué cette excitation. Ça n'a pas grande importance. En revanche, là où peut-être ça peut vous faire du bien d'en parler à quelqu'un qui va vous aider, c'est que ça va vous permettre de ne pas continuer à être dépendant totalement
culpabiliser surtout. Même si ça vous fait du bien.
Je culpabilise, oui, parce que je me dis, ma tante, je sais qu'on a tous un côté un peu féminin dans chaque homme, mais quand même, là, ça me paraît agressif, quoi.
Oui, bien sûr, mais encore une fois, c'est pas vous qui voulez devenir femme, vous savez, on parlait tout à l'heure du désir mimétique. Hein. Je vous l'explique un peu simplement, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est quand vous étiez petit garçon, il y a une femme avec des sous-vêtements qui vous a excité, et quand vous vous remettez ces sous-vêtements, vous savez, les enfants sont pas des adultes, donc les enfants sont des éponges, des miroirs de l'adulte. Et donc vous redevenez le petit enfant, et vous avez ces vêtements-là, et donc vous êtes à la fois le petit enfant et la femme qui vous a excité quand vous étiez petit enfant. Vous comprenez ?
Ah oui, je comprends mieux comme ça, oui.
Voilà, donc c'est oui, pas, oui. C'est oui. pas que vous êtes en train de devenir une femme ou que vous avez envie de devenir une femme, c'est vraiment un...
Non, je me sens pas attiré par les hommes, quoi, voilà.
Je vous rassure, et donc le processus, vous êtes d'accord à peu
oui,
près,
hein,
Laurent
Carilla.
Donc ce processus-là, c'est ce que vous êtes en train de vivre, comme si vous vous dédoubliez, mais c'est des choses qu'on comprend très bien quand on travaille un peu la psychologie des profondeurs, si je puis dire, parce que là, on est dans des choses...
Je vous adore, Brigitte, quand vous dites des mots comme ça.
donc, vous voyez, c'est pas grave oui. du tout. Il y a rien à dire, il y a pas à juger, il y a pas à critiquer.
Je sais bien que c'est pas énormément grave, mais ça me perturbe parce que.
Mais oui, parce que ça vous retrouvez pas dans tout ça. Vous comprenez pas ce qui vous arrive.
Voilà.
Donc.
Voilà. Et
bon.
Puis je m'habille dès que je suis seul. Je prends dans le placard. Je prends un string, je prends un body et. Voilà quoi, et je me dis, mais putain, mais pourquoi t'es comme ça quoi?
Ben, je vous ai un peu expliqué, j'espère que ça vous aide déjà
ouais,
dans un premier
ouais.
temps.
Et essayez de voir quelqu'un.
Et voilà, voyez quelqu'un ouais. avec qui vous allez pouvoir assez rapidement avancer
quoi.
Pour que déjà ça vous coûte moins, bah, que vous ne mettiez pas vos finances en danger et puis ensuite que vous puissiez ne pas perdre votre compagne parce que les femmes n'aiment pas quand on les oblige systématiquement à mettre des sous-vêtements. Elles aiment bien parce que sinon elles
ah bah, ont. Oui, je sais, j'ai déjà eu la réflexion une fois. Et,
c'est normal.
Et de la même façon, elle n'aime pas non plus quand moi je suis habillée avec des sous-vêtements féminins.
Mais oui, parce qu'elle ne comprend pas non plus. Elle ne comprend pas pourquoi.
Parce qu'une fois j'ai essayé de, voilà, de mettre un collant ou un porte-jartel, je ne sais plus à elle, et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là?
Et puis si vous allez vous faire aider, ça va se calmer, vous allez réussir à gérer. Sinon, ça risque en effet de continuer
de
s'aggraver.
De continuer, ouais. Et d'être trop envahissant,
okay.
quoi.
Voilà.
Ok.
Ben merci de
bon
votre
courage.
Confiance, en tout cas, Bertrand. Merci beaucoup. Eh bien, on voit bien, hein, de toute façon, que ben, l'être humain, c'est pas,
l'être
c'est
humain
pas
est
simple.
Complexe.
Hein, c'est complexe. Ouais. Et on peut parfois. Et ce qui est toujours très étonnant, Laurent Carilla, c'est que. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on a 35 ans, 40, 60 ans. Tout d'un coup, il y a un truc qui nous tombe dessus.
Mais il n'y a pas d'âge, en fait.
Et on ne sait pas d'où ça vient, on ne ouais. sait pas pourquoi ça a mis... Et c'est ça aussi qui est toujours très compliqué à
Bien
comprendre. Mais...
Surtout quand notre comportement change, quoi.
Oui,
on se dit,
ça.
Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?
C'est ça, c'est ce que nous
que
a raconté
Bertrand.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter dans ces moments-là à se faire aider pour justement...
Il ne faut pas garder pour soi. Il faut essayer même d'en parler à un proche. Après, c'est pas délicat selon les sujets, mais à un très proche en qui on a confiance. Mais il faut quand même qu'il y ait un dialogue.
On est là pour ça. Parce qu'on voit bien que Bertrand, ben, il ne savait pas trop à qui en parler.
Bah,
et le fait de pouvoir...
Il a eu raison.
Mais bien sûr, et puis on n'est pas là, encore une fois.
Pour juger.
On a, et puis a priori, on peut à peu près commencer à tout expliquer.
Exactement.
Laurent Carilla.
À donner en tout cas des pistes. On peut. Ouais.
Oui, voilà. Bah quand même.
Vous êtes formidable, Brigitte, en plus. Et moi, j'ai adoré la psychologie des profondeurs, ça c'est beau. C'est une belle phrase.
C'est une jolie phrase, merci. Je la garde, alors j'essaierai de la réutiliser. Alors, on va continuer évidemment après les infos à évoquer à la fois la passion, les addictions et pourquoi pas les paraphilies, hein, puisque...
On peut en parler, ouais.
Paraphilie, c'est pareil, c'est quelque chose qui... enfin, c'est une sorte de fantasme.
C'est encore plus honteux, enfin, c'est encore plus difficile parce que vraiment, les paraphiles, ceux qui souffrent de perversion sexuelle, comme on appelait ça avant, ils sont... Ils ont plus de mal à venir en consultation, etc. C'est plus dur encore.
Ben oui, parce qu'on a vite tendance à croire que c'est pas bien.
Ouais, ouais.
Voilà. On va dire que c'est un péché mignon, c'est pas grave.
Ça dépend des paraphiles.
Oui, absolument. Non, mais ça, c'est sûr que si on va à la morgue pour ouais. faire l'amour avec
Ou
des cadavres...
Ou la pédopornographie, voilà.
On est quand même dans des choses plus délicates. Bref, donc on va parler de tout ça dans la deuxième heure, vous avez compris. Hein, on a ouvert le sujet parce qu'en effet, c'est tellement vaste, la psyché des profondeurs pour faire plaisir à Laurent Carilla. Et alors, pour vous faire plaisir aussi, je vous donne une très jolie devinette. Qu'est-ce qui est dur, qui devient mou dans la bouche d'une femme et qui, en principe, elle n'a pas envie de l'avaler? Vous avez le temps des infos pour donner la réponse et c'est pas du tout ce que vous croyez, ce serait trop facile. Et si vous avez envie de nous rejoindre, quel que soit le sujet que vous avez envie d'aborder, vous l'avez compris, on aborde tous les sujets aujourd'hui, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio Tarascon
95.2
Sud Radio.
Mmh.
suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment, tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant, tu es la cannelle, le piment, émerveillé, je suis l'enfant, mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito, mi cielo, mi vida, mi amor, mi pichoncito. Je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige, il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume, il suffit que je te regarde. Tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre, le miel. Je suis l'enfant. Tu es la cannelle, le piment. Émerveillé, je suis l'enfant. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito. Mi cielo, mi vida, mi amor. Pichoncito, tu sonrisa, mi gasolina, tu piel, mi calma. Car tu es le sel, la cannelle, le piment, tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Tu tienes el poder de escoger tu destino, el poder de escribir tu destino, será tu imagen. Que el algodón más poderoso que el león, sea sabio y obediente, como a menudo te piden. Sé justo, tenaz y sincero, sé solo tú, sé solo tú.
Dans un instant, retour de Brigitte Lahaye Sud Radio.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit, je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste, elle s'en fout.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.